بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ الإسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir un instant pour étudier un des noms d'Allah Azza wa Jal, un de ses noms. Et le nom d'Allah Rabbul Izza qu'on avait commencé donc à aborder il y a quelques semaines, c'est Al-Latif, celui qui est plein d'affection, le subtil, celui qui ne veut que le bien pour ses serviteurs. Et on avait dans un premier temps cité la définition de cette qualité, de ce nom et de cette qualité qui est Al-Latif. Ensuite, on avait essayé de voir les différentes manifestations de la bonté d'Allah Azza wa Jal, de sa bienveillance envers ses serviteurs à travers les événements de notre vie. On avait cité tout d'abord que parmi les signes de la bienveillance d'Allah Azza wa Jal à notre égard, le fait qu'il nous accorde une subsistance en fonction de nos besoins. Et autre point, on peut combiner certains points, le fait qu'Allah Azza wa Jal donne à un de ses serviteurs une subsistance qui lui suffit, et Allah donne à ce serviteur en même temps al-qana'a, une satisfaction, être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Deux points. Là, on fait une synthèse en différents points. Et troisièmement, on reste dans cette thématique de subsistance, et que par cette subsistance, tu arrives à subvenir à tes besoins nécessaires, tout ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de ta vie familiale, mais que ce asbab de rizq, le travail qu'Allah t'accorde, ou les moyens pour qu'il te donne la subsistance, ce moyen-là ne te détourne pas de son adoration. On a fait trois en un. Donc parmi la manifestation de la bienveillance d'Allah envers un de ses serviteurs, c'est qu'Allah t'accorde une subsistance licite, halal. Cette subsistance, elle est suffisante, ça te suffit pour tes besoins, et cela ne te détourne pas de son ibadah, de son adoration. Contrairement à une personne qui peut gagner beaucoup, et que son patrimoine est tellement lourd à gérer, ou alors que son travail prend tellement de son temps, nécessite des heures de préparation, la mise en place, et ainsi de suite, le suivi, et que la personne ne trouve même pas le temps pour venir à la masjid, ou pour se réveiller, pour faire la salat de fajr, tellement la personne est fatiguée. Donc, contrairement à cette personne, même si elle gagne 4 fois plus, mais le fait d'avoir ce qui nous suffit, et qu'on peut faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et que cela est suffisant pour notre vie, ça fait partie de la bienveillance d'Allah Azza wa Jal à l'attention de ses ibad, à l'attention de ses serviteurs. Ça c'était une thématique. Autre thématique, on avait vu également que annahu yuqaddiru ala ibadihi anwa' al-masa'ib. On s'est arrêté là-dessus la dernière fois, qu'Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, dans sa clémence, et par rapport à son ilm, à sa connaissance du cas de chaque être humain, Allah Azza wa Jal prédestine pour certains de ses serviteurs des épreuves. Alors on a dit des épreuves parce que les épreuves seront différentes en fonction de chaque individu. Et Allah, Rabbul Izzah, dans son ilm, dans sa connaissance, connaît exactement la situation de chacun de ses serviteurs. Et Allah, Rabbul Izzah, sait exactement quelle épreuve est adaptée à la vie de telle personne. Pour telle personne, ce sera une épreuve concernant sa santé. Pour une autre personne, ce sera une épreuve en rapport avec sa vie familiale. Pour une autre personne, ce sera une épreuve en rapport avec son travail, ou alors avec le côté financier, et ainsi de suite. Et pour chacune de ces épreuves, Allah Azza wa Jal accorde des récompenses à celui qui fait preuve de sabr, qui fait preuve de patience. Et on avait plus ou moins développé ce point la dernière fois, et j'estime que c'est un des points les plus importants, même si on se suffisait de ça, ça te donne une autre vision de la vie. Ça te permet de comprendre la vie d'une autre façon. Très souvent, on est un peu frustré par, je ne dis pas par notre destin, mais parfois par notre carrière professionnelle ou par notre,
notre vie familiale, on aurait souhaité que ça se passe autrement, on aurait souhaité que je me marie plus tôt, j'aurais souhaité avoir un travail plus proche de mon domicile ou gagner un peu plus, avoir un niveau de vie plus confortable ou que je n'ai pas tel problème ou que je ne sois pas éprouvé par telle maladie ou que quelqu'un parmi mes proches n'ait pas tel souci de santé ou autre chose. Mais ça, c'est les tamannas, c'est ce que l'homme souhaite. On a tous un idéal. L'idéal de l'homme, c'est quoi? C'est d'avoir une famille, d'avoir les moyens, d'avoir un travail, d'avoir des relations parfaites avec ses parents, des enfants qui obéissent et que tout va bien, de le meilleur des mondes. Sauf que ce monde, c'est tout, sauf un long fleuve tranquille. Et si tu vis dans un long fleuve, si ta vie c'est un long fleuve tranquille, c'est là qu'il y a un problème. Si tu n'as jamais d'épreuve, c'est là que tu dois te remettre en question. Voyez comment est-ce que le dîn nous donne une autre vision des choses. L'homme heureux, présenté dans, à travers les acteurs de la société, ou alors l'idéal qu'on nous présente, c'est celui qui est pépère, qui a tout ce qu'il veut, tranquille, et notoriété, célébrité, travail, reconnaissance de la société, valorisation de son, de ce qu'il fait, et ainsi de suite. Bref, vous savez tous comment la société nous présente l'homme idéal, celui qui réussit. Mais dans notre dîn, bil'ax, bien au contraire, la personne qui a des difficultés, la personne qui connaît des moments compliqués, et ces moments lui permettent de se remettre en question et de réaliser que tout vient d'Allah et donc de revenir vers Allah pour lui demander son aide, ben ça c'est quelqu'un qui est comblé, qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Vous voyez, il y a une réponse, j'ai eu un message à WhatsApp il y a deux jours d'un collègue, un grand savant, le genre de alim que le jour où ce genre de personne vient à la réunion, fait un programme, je pense que nous aurions plus rien à rajouter. Sauf que je crains qu'on ne lui donne pas la considération qu'il mérite, parce qu'il n'est pas indien comme nous. C'est un frère comorien. Mais un niveau de ilm, un niveau de connaissance exceptionnel. J'ai fait sa rencontre durant le Hajj. Khairan Inchas, ce genre de personne qui, Wallah Musta'an, m'a envoyé un message avec une citation, Wallah, Allah, Allah, je l'ai lu, je l'ai relu avant de venir, je l'ai relu encore, ça donne des frissons, et si on a un peu de temps, on essaie d'en parler. Et là, j'aurais besoin également d'un retour de votre part. Je vais vous poser une question que le prophète, alayhi salat wa sallam, avait posée à quatre sahaba, et ils ont tous donné des réponses en fonction de leur personnalité. Et le prophète, alayhi salat wa sallam, va ensuite dire, lui, quelle est sa vision des choses? Et l'ange Jibril va dire comment lui il voit cette chose, et il montera aux cieux et reviendra et dire Allah Rabbul Izza a dit que pour lui, Seigneur des mondes, voilà les choses qui sont les plus importantes. Donc ça nous permet de nous remettre en question et de voir très sincèrement quelles sont nos priorités dans la vie. On a besoin de se remettre en question, ikhwani fillah. Celui qui pense que parce qu'il appartient à une grande famille, parce qu'il a une histoire, et Allah seul sait que vaut notre histoire, et que c'est amplement suffisant, c'est là que c'est grave. Un des signes, Allah Akbar, ça aussi j'avais lu récemment, un des signes de présence de foi, c'est le fait de se remettre en question en permanence. Chaque fois que tu te poses des questions, c'est pas avoir des doutes. J'ai un ami qui a des doutes sur tout. Il a des doutes, bon, ça c'est prière, ça c'est un problème, hein. Mais surtout, est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi j'ai pas fait Fajr? Est-ce que ça veut dire qu'Allah m'a laissé dormir pour me reposer? Il dit, aïe, rentre pas dans tous ces détails du destin, de ce qui est arrivé. Parce que là, on sombre dans les waswasa de Shaitan. Quand on parle de se remettre en question, à chaque fois de se demander en fin de journée, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était une journée de musulmans, ça? Est-ce que c'était une journée de mu'mine, de croyants? Est-ce que aujourd'hui j'ai passé une journée de pieux, de muttaqi? Est-ce que j'ai fait preuve de piété, de crainte d'Allah? Est-ce que j'ai ressenti la crainte d'Allah lorsque j'avais la possibilité de désobéir à mon Seigneur? Lorsqu'il y avait des dilemmes, des situations où Allah m'expose, où Allah expose le mal? Et est-ce que à ce moment j'ai fait le bon choix ou alors j'ai suivi mon nafs? Ça c'est un mu'min intelligent. Et celui qui se remet en question, qui se dit que non, il faut changer. Inch'Allah, demain, je vais faire de mon mieux. Vous savez, ce croyant-là, même s'il s'est trompé 10 fois aujourd'hui, c'est quelqu'un de bien, ça, Inch'Allah. Parce qu'il est un fikar permanent. Parce qu'Allah n'attend pas de nous la perfection. Allah l'a annoncé clairement. Quand les sahaba qui étaient avec le prophète sallam, degré de iman, grimpe, et quand il revient chez lui, petite faiblesse, il retrouve sa femme, ses enfants. On connaît l'histoire. Et puis quand il retourne chez lui, il se dit que après, à côté du prophète sallam, quand j'étais auprès de lui, j'avais un tel degré de foi et maintenant voici mes préoccupations. Certainement, je suis un hypocrite. Et voilà, le prophète dit, voilà ma situation. Le prophète dit, si vous étiez tout le temps au top niveau, les anges viendraient vous faire moulakat, en ce sens. Mais personne ne peut atteindre la perfection à part Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, à part Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Nuh alayhi salam, et ainsi de suite. Même si je m'appelle Mohammed, il s'appelle Isa, Nuh, Ilyas, Ismaïl, nous portons les noms des prophètes, mais nous n'avons pas les qualités des prophètes. La perfection, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'homme. Impossible. Et si on ne... Allah aurait même pu créer des peuples, Allah aurait créé des peuples qui accomplissent des péchés et qui reviennent vers Allah Azza wa Jal. Pour qu'on réalise que le retour vers Allah, ça fait partie des choses qu'Allah aime. Ça ne veut pas dire qu'accomplir des péchés et puis demander tawbah. Non, on comprend bien. On ne crée pas le mécanisme. Ne créez pas le mécanisme. Ça, c'est pas dans vos mains, ça. Ce qu'Allah a prédestiné, si vous arrive des situations, si nous arrive des situations où on s'est un peu éloigné, on a fait quelques erreurs, ben, il y a un frère qui est régulier au programme, m'envoie un texto dernièrement, il me dit que tu avais raison, Oustad, il y a des fois où la foi, elle est présente, des fois où la foi, elle est moins forte et on fait des erreurs. Je suis dans une très mauvaise phase où j'ai commis pas mal d'erreurs et puis on devait se voir et puis on n'a pas pu se voir. Rien, Inch'Allah. Mais, si on a vécu une situation, une période où il y a une dépression de la foi, ben c'est le moment d'utiliser cette période-là pour un meilleur retour vers Allah. Ça fait partie des points que je n'avais pas l'intention de développer parce que c'est trop complexe. J'aurais peut-être du mal à vous expliquer et peut-être qu'on aurait du mal à comprendre, mais c'est beaucoup trop technique concernant la bienveillance d'Allah. Je le dis parce qu'on a commencé à en parler. Il y a des fois où tu es éprouvé par un péché et tu tombes dans le péché. Mais ce retour vers Allah, ça fait partie de la bienveillance de notre Seigneur. Tu es dans une phase où tu t'es remis en question et tu as eu des remords. Tu as eu des remords et tu as revu ta position de serviteur par rapport à Allah Azza wa Jal. Celui qui regrette, c'est celui qui a compris la hiérarchie de la création, oui ou non? Celui qui regrette un péché, par exemple, si je suis égal à un collègue, d'accord, je ne vais pas regretter d'avoir fait tel choix parce que ce n'est pas mon supérieur. Il y a un chèque, il est comme moi, on a le même poste. Mais quand est-ce qu'on a des remords? C'est quand on a affaire à quelqu'un qui est au-dessus de nous, et là on va lui demander des excuses, on va présenter un courrier, et ainsi de suite. Mais quand quelqu'un accomplit un péché, comment est-ce qu'il peut regretter? C'est quand il s'est resitué dans la hiérarchie et il a réalisé qu'il est créature d'Allah et qu'au-dessus de lui, il y a le Créateur, et il doit rendre des comptes à son Seigneur. Et donc là, il se rend compte qu'il a traversé une période qu'il n'aurait pas dû traverser. Il a accompli des choses qu'il n'aurait pas dû accomplir. Il a accompli des péchés qu'il aurait pu éviter. Ce n'était pas une fatalité. Il n'y a aucune fatalité face au péché. Il aurait pu dire non, il aurait pu refuser, mais c'est fait, il l'a fait. Maintenant, retournez vers Allah. Et ce retour vers Allah, c'est un moment qu'Allah aime. Donc il y a des fois où Allah nous met dans des situations. Ça ne veut pas dire qu'on cherche des situations où on fait des péchés pour revenir. Non, non, non. Encore une fois, on le dit, on le redit. J'espère que c'est clair. Ne cherchons pas les mécanismes du péché pour revenir vers Allah. Mais s'il nous arrive par bijahala, par ignorance, par inadvertance, par faiblesse de foi, circonstances où on a chuté, pense à te relever et à te prosterner de nouveau devant Allah Azza wa Jal. Et Allah sera satisfait de toi. Tout ça, c'est l'utf min Allah. Tout ça, c'est la bienveillance d'Allah Azza wa Jal à l'attention de ses créatures, de ses serviteurs. Et lorsqu'on analyse, on avait vu la vie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une vie remplie d'épreuves. Depuis le début jusqu'à la fin. Il naît orphelin, sa mère va mourir, son grand-père va mourir, son oncle va mourir, il va perdre son épouse, il va perdre Ibrahim, son fils. Et il a rêvé, il va perdre sa fille qui était mariée avec Uthman ibn Affan, le prophète alayhi salatu wa salam, sur le plan familial. Il a connu un nombre de décès supérieur à n'importe quel prophète alayhi salatu wa salam. Tarbiya min Allah. Éducation de la part d'Allah, épreuve de la part de notre Seigneur. Maintenant, au-delà de la perte des proches, la pauvreté, les difficultés. On a vu, il y a des fois où des mois passaient sans qu'ils aient un peu de viande ou même du pain à cuire. Ils ne mangeaient que des dattes, ils buvaient de l'eau. Les difficultés par rapport à sa réputation, lorsque les gens l'accusaient d'être un sorcier, d'être un menteur, de semer la zizanie, ou lorsqu'on portait atteinte à sa personne comme à Ta'if, comme à Uhud, où on ont touché la dignité de son épouse, comme le hadith al-Ifk avec Aïcha radiallahu anha, ou qu'il voyait ses sahaba mourir devant ses yeux, comme l'histoire de Al ou Yasir, c'est-à-dire que qu'il a été touché de sihr, de sorcellerie, ou qu'il était gravement malade. C'est-à-dire les épreuves de tous les prophètes alayhi salatu wa salam se sont retrouvées dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, quand tu analyses une vie qui est remplie d'épreuves, ça te donne une autre vision, une véritable compréhension de Hayat al-Dunya. Si l'homme le plus aimé, Ahabun Nas ilallah, si l'homme le plus aimé par Allah connaît autant de difficultés dans ce monde, ces difficultés-là, ça ne veut pas dire qu'Allah ne l'aimait pas, na'oud billah. Ça ne veut pas dire qu'Allah l'a abandonné, na'oud billah. Ça veut dire que lorsqu'Allah aime un serviteur, Allah envoie des épreuves et ta réaction de l'épreuve, c'est ce qui fait de toi un croyant. C'est par cette réaction que tu atteins de haut degré. Un des pieux prédécesseurs avait dit que chaque être humain, chaque croyant a un degré auprès d'Allah et parfois on n'arrive pas à atteindre ce degré par nos bonnes œuvres. Qui c'est qui peut se vanter que mes bonnes actions me permettront d'accéder au paradis? Yahri, personne. Il ne faut pas faire genre. Il ne faut pas croire qu'on est bien. Faut pas croire qu'on est les meilleurs, pas parce que j'ai un petit collier de barbe ou je connais le Coran par cœur ou parce que mon père s'appelle comme ça ou je descends de telle famille que je suis quelqu'un de bien, de muttaqi, ça ne veut rien dire. Compare-toi à Abou Bakr et puis tu comprends que vaut mieux baisser la tête et trace ton chemin. Donc ce pieux prédécesseur dit que on ne peut pas atteindre ce degré parfois uniquement par nos bonnes actions, mais Allah envoie des épreuves et ces épreuves c'est une clémence d'Allah Azza wa Jal. C'est une manifestation de sa clémence, de sa sagesse, de son lotf, de sa bienveillance. Allah, d'une certaine façon, il te prend par la main et il te ramène vers lui par ses épreuves, par les épreuves qu'il est en train d'envoyer. Ikhwani fillah, si on a une compréhension de cette qualité d'Allah, ça te donne une compréhension du al-qada ou al-qadr, du destin, la prédestination. Et si tu comprends le taqdir, tu atteins le summum de la foi. Les ulama aqidah, rahimahumullah, ils expliquent, quand ils donnent des explications sur les six branches de la foi, les six piliers, pardon, de la foi, ils terminent toujours par al-qada ou al-qadr, parce que c'est le plus complexe. Il y a un frère qui m'a pris beaucoup de temps, Ba'd al-Maghrib, Allah yarhamhu, et il n'est pas décédé, je vous assure, qu'Allah ait pitié de lui. Et il m'a pris la tête avec une question sur le destin. Et ça m'a, je ne dis pas ça m'a coupé l'appétit, mais ça fait chauffer le coco. Ça fait travailler l'esprit parce que c'est très complexe à expliquer. J'ai expliqué deux fois, il n'a pas compris. Il a détourné la question. Et puis bon, khairan inshallah. Les savants disent que celui qui a compris le destin et qui a un iman sur le qada ou le qadr, comme un yambari, complet comme il le faut, ça c'est le plus haut degré de foi. Ça veut dire que là tu as atteint le summum de iman. C'est pour ça que cette qualité, ces qualités qu'on a vues au début, Rahman, Rahim, et là, Latif, c'est essentiel pour qu'on puisse comprendre la vie. On a grandement besoin à notre époque, pas de faire beaucoup d'ibadah. Parce que faire beaucoup d'ibadah, venez de mois de Ramadan avec les masajid pleins, les Qur'an, mashallah, en utilisation, les gens font tahajjud et ainsi de suite, qu'Allah accepte. Mais malheureusement, on n'en ressort pas grandi. On booste, on est à fond pendant un mois, mais après, parfois une semaine, parce qu'on fait les six shawwal, on est toujours chaud, mais 10 jours après, 15 jours après, on se rend compte que on recommence à glisser pas par pas vers nos mauvaises habitudes. Et si on fait un bilan 2 mois après le mois de Eid, 2 mois après le mois de Ramadan, on se rend compte qu'on est revenu au point de départ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une compréhension de la vie. La relation de ce dunya et le akhira, ça se comprend à travers l'étude des branches de la foi, principalement le iman, et en étudiant les noms d'Allah Azza wa Jal, comprendre comment est-ce qu'Allah agit avec nous, qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Et là, ça te donne vraiment une vision éclairée et intelligente de la vie. Hada. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça c'est également un point un peu complexe, mais on peut s'aventurer, on peut expliquer, Inch'Allah. وَمِنْ لُطْفِهِ Parmi manifestations de la bienveillance d'Allah envers ses serviteurs, c'est qu'Allah met sur ton chemin, j'essaie de retravailler le sens, c'est un peu compliqué, Allah met sur ton chemin des personnes qui vont t'aider dans les bonnes œuvres. Et le verset qui a été cité par ce savant, ça va dans un autre sens, mais on le ramène d'une façon un peu plus terre à terre, on va dire, dit que lorsque Moussa a reçu sa mission, Il a demandé à Allah Azza wa Jal, waj'alli waziran min ahli. Il a demandé en ce sens, et puis il a demandé Harun akhi. Il a demandé à Allah Azza wa Jal d'envoyer de l'aide, qu'une personne l'assiste dans sa mission. Et là, Allah Rabbul Izza, il a demandé que ce soit Harun, son frère, qui était éloquent. Et donc, et qui était aimé des gens. Harun, c'était un homme qui était aimé de son peuple. Moussa al-Islam aussi, mais Harun, c'était, en plus, il était éloquent. Donc, Moussa al-Islam a demandé l'aide de Harun, demandé l'autorisation à Allah Azza wa Jal, qui lui a accordé l'autorisation. Et donc, Harun aidait Moussa alayhi salam dans sa nubuwa, dans sa prophétie. Tous les deux étaient des, tous les deux étaient des prophètes. Et donc, par analogie, et par déduction par rapport à cette histoire et ce verset, les savants disent que Allah Rabbul Izzah peut mettre sur ton chemin des personnes qui vont t'assister, te permettre d'accomplir des bonnes actions et d'avancer spirituellement pour accomplir des missions nobles, comme Moussa al-Islam a reçu l'aide de Harun. Et ça, c'est une clémence d'Allah, c'est une bienveillance d'Allah Azza wa Jal à ton attention. Et l'exemple qu'on a retenu, un exemple qu'on peut intégrer, et ceux qui ne sont pas mariés, demander doua de ce sens, et ceux qui sont mariés, demander doua pour que les choses s'améliorent et ça puisse aller de ce sens. Avoir une épouse vertueuse qui te permet de faire un cheminement vers Allah Azza wa Jal, ça c'est un cadeau de la part d'Allah. هذا من لطفه عز وجل. Ça fait partie de la bienveillance d'Allah envers une de ses créatures, que de lui accorder une moitié, une épouse, ou pour une femme, un époux, qui va lui permettre d'avancer vers Allah Azza wa Jal, de faire son chemin, d'avancer de la spiritualité. Donc l'épouse vertueuse, tout comme l'époux vertueux, c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. De bonnes fréquentations, c'est également une clémence d'Allah Azza wa Jal, d'avoir dans son cercle d'amis uniquement des personnes qui sont bien. Des personnes, de ne pas avoir des personnes qui t'invitent vers le haram. Avoir dans son cercle d'amis quelqu'un qui le samedi, il essaie de te convaincre de venir à Saint-Gilles, d'aller en boîte de nuit ou de fumer tel truc ou de et ainsi de suite, les choses qu'on connaît qui sont pas bien. Même si on dit non une fois, deux fois, à un moment donné, il y a un risque de tomber dans le haram. Parce que la mauvaise fréquentation, que tu ne le veuilles ou pas, ça déteint, ça a un impact direct sur toi, d'où l'exemple de celui qui fréquente, vous connaissez le hadith, le forgeron, et celui qui fréquente un vendeur de parfums. Donc, avoir des personnes de ton entourage, que soit ton épouse, ou alors des membres de ta famille, ou alors de ton cercle d'amis, des personnes qui te boostent spirituellement, qui te permettent de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est également une clémence d'Allah, c'est également un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Point suivant, وَمِنْ لُطْفِهِ عَزَّ وَجَلْ. Et là, la personne qui a rédigé ce livre, donc, il reprend encore la notion des preuves, pour qu'on réalise bien que la notion des preuves, elle ne peut être comprise qu'à partir du moment où tu as essayé, j'allais dire décrypter, mais on ne peut pas décrypter sans poisson, où tu essaies de comprendre la clémence d'Allah, la sagesse d'Allah, et ça c'est un des noms qu'on doit apprendre par la suite, Al-Hakim, et la bienveillance d'Allah. Là, tu comprends le sens des épreuves. Donc, on met un yabtali. Et la formulation de ce savant est tellement magnifique que un yabtali, ibadahu bi ba'dil masa'ib. Parmi les signes de la bienveillance d'Allah envers son serviteur, c'est lorsqu'il envoie sur ce abd, sur ce serviteur, une épreuve, fayuwaffiquhum للقيام بوظيفة الصبر فيها فيوفقهم. Allah te donne توفيق, de faire preuve de patience. C'est étonnant comme terme. C'est qu'Allah te donne la possibilité de développer الصبر. Et à travers cette formulation, on voit bien que être patient, faire preuve de patience, c'est une qualité d'un croyant et c'est une qualité qui est appréciée par Allah Azza wa Jal. Dans notre société, quand quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle ou ainsi de suite, la personne est, elle a le moral dans le talon, il est complètement abattu et ainsi de suite. C'est un cataclysme, une catastrophe. C'est un jour catastrophique. Mais pour le croyant, le mu'min, ces épreuves, c'est une porte qu'Allah t'ouvre pour te permettre de développer une qualité qui s'appelle « al-sabru al-bala », la patience face aux épreuves. Et ça, on doit le considérer comme une ouverture comme un signe de la bienveillance d'Allah envers nous qui nous donne la possibilité de développer cette qualité. Sarahatan, très clairement, quand on étudie ces textes, je vous dis très sincèrement, ça rebooste spirituellement et ça nous permet encore une fois de bien comprendre la vie et de relativiser toute chose. On arrive à tout relativiser. Et ça, ça nous ramène à ce hadith basique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La situation du croyant est exceptionnelle et cela est propre au croyant. Allah t'accorde un bienfait. Tu fais preuve de reconnaissance. Fakana khayra Allah. C'est un bien pour toi. Allah envoie une difficulté. Tu fais preuve de, tout à l'heure c'était reconnaissance. Tu fais preuve de patience. Fakana khayra Allah. Il y a un bien pour lui. C'est-à-dire dans toutes les situations de ta vie. Moment de bonheur comme moment, je ne dis pas de malheur, mais de difficulté, d'épreuve, il suffit de se retourner vers Allah, être reconnaissant ou être patient, et il y a un bien pour toi. Avec ça, le croyant, il vit tranquille, avec le cœur apaisé. Et en conclusion, bon, on ne pourra pas conclure aujourd'hui, parce que j'aimerais arriver à cette question que je vais vous poser. Ce alim, ce savant, il explique qu'à la fin, il explique que quand on a développé, ce nom d'Allah, Al-Latif, ben, subhanallah, dit, ton cœur maintenant est habité par une quiétude, une tranquillité. Parce que un homme qui est persuadé que tout vient d'Allah et qu'Allah est clément, Allah nous aime, Allah est sage et Allah est bienveillant envers nous, que jamais Allah ne prendrait une décision qui est mauvaise pour nous, ben, du cœur de ce croyant, on ne retrouvera plus jamais dans son cœur, ne retrouvera plus jamais la jalousie, la cupidité. Tu as pu chercher à gagner du terrain, à prendre la clientèle de ton concurrent, j'allais dire à ton ami, mais c'est ton concurrent, il prie à côté de toi, mais dans la vie c'est ton concurrent, Allah musta'an, le pays soit comme ça. Tu penseras plus à faire du mal, à désirer ce que l'autre a eu, à regarder ton prochain, à avoir de mauvaises pensées, parce que tu es persuadé que tout vient d'Allah. Et qu'Allah c'est le muqassim, c'est Allah qui a distribué la subsistance et c'est le plus sage, c'est le sage. Et il sait ce qu'il fait, il sait à qui il faut donner, et on développe al-qana'a. Ça fait de toi un homme, j'aime pas le terme, c'est un peu, hein, un homme zen, un homme tranquille, apaisé, dans le cœur duquel il y a at-tama'nina, la quiétude, la tranquillité du cœur. Qu'Allah nous accorde cette qualité, ikhwani fillah. Il nous reste, j'ai pas démarré mon chronomètre, donc, du coup, le hissab n'a pas commencé. C'est maintenant. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton « Khair Inch'Allah ». Je ne sais pas combien de temps on a fait déjà, 25 peut-être, non. Je pense qu'il reste 10 minutes, Allahu A'lam, à moins qu'on suive le compteur. Dans les 10 minutes qui nous restent, j'aimerais vous relater une scène qui est sublime, mais qui est d'une simplicité. C'est une petite question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé à un groupe de sahaba, et il a pris la vie de 5 sahaba. Et j'aimerais, pour faire un peu, j'allais dire revivre une sunna, mais faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait, j'aimerais vous poser la même question, et soyez courageux, essayez de répondre, au moins, ça permet un petit peu de voir ça nous permet de nous remettre en question nous-mêmes. Et puis moi aussi, je vais répondre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu, ensuite on verra quelle fut la réponse de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali et Abu Dhar al-Ghifari, radiyallahu anhu. La question est la suivante, je vais d'abord demander aux frères, je ne dis pas les noms au moins, d'accord, quelles sont les trois choses que tu aimes le plus dans ce monde? Je n'ai pas dit les biens de ce monde, et on ne dit pas que ça c'est dunya, ça c'est akhira, non. Quelles sont les trois actions que tu aimes le plus faire? Ça peut être en rapport avec ta vie mondaine, familiale ou spirituelle. Cite-moi trois choses. La salah, 1.
Ma femme.
La famille, 2.
Ma femme.
Il manque un.
Iman.
Barakallah fi. Hein? Aimer Allah. Barakallah fi. Je vais demander à Nabil. Je ne cite pas les noms. Mais Nabil, c'est un bon maman et tout le monde le connaît. Quelles sont les trois choses que tu aimes le plus dans cette vie?
La salah.
La salah.
Et ma mère.
Et ta maman. Barakallah fi. Je vais demander à docteur.
Allah.
L'adoration d'Allah, on va dire.
Ouais.
L'adoration d'Allah.
La prière.
La prière.
Et les enfants.
La troisième réponse, elle est honnête et sincère. Le but, c'est pas de dire, c'est de montrer qu'on est des gens pieux. Chacun sait ce qu'il vaut, d'accord? Mais c'est une réponse sincère. Les sahaba avaient donné des réponses sincères. Et les réponses des sahaba étaient différentes. Et là, ça montre également la personnalité des sahaba. Parce que le premier qui a répondu, c'était un gros client. Hein. C'était Abu Bakr al-Siddiq. Donc Abu Bakr a parlé. Après, à un moment donné, tu as envie de tracer. Tu te dis que bon, peut-être vaut même plus le coup d'essayer. Mais les sahaba, Omar qui a répondu après, c'était sans complexe. Il a donné une réponse différente. C'est pas qu'il dit, ah, peut-être faut dire comme ça pour que le prophète soit content. Non, je suis moi. C'est ma personnalité. Je dis ce que j'aime. Je demandais à, au jeune frère qui est devant nous. On a dit qu'on ne cite pas les noms. Quelles sont les trois choses que tu aimes le plus de ce monde?
Les voitures.
Les voitures. Les biens de ce monde.
Tout ce qui est beau.
Tout ce qui est beau. Ce qui est belle aussi, j'espère. Frère, Inch'Allah. On a demandé à combien de personnes là? 1, 2, 3, 4. Une dernière personne. À qui on va demander? On va demander à un ancien. C'est qui le plus ancien entre les deux? Cheikh Hadisab, les trois choses qu'on aime le plus. L'adoration d'Allah. La salah. La famille. Barakallah fik. Le prophète avait demandé à quatre sahaba, ils ont donné des réponses différentes. Et ensuite, le prophète lui-même a répondu. Et si moi, je devais répondre comme le prophète avait répondu, j'aurais dit que les trois choses que j'aime le plus, sauf que comme moi j'ai vu les textes, je sais orienter mes réponses un peu plus. Plutôt que de dire l'adoration d'Allah, les sahaba, ils avaient cité une action précise. Donc ça, c'est des choses que vous ne saviez pas à la base. Donc, moi, je peux être un peu plus précis, ayant lu les réponses des sahaba, je voudrais dire que Ahabul. Ahabul A'mal, l'action que j'aime le plus, parmi les actions que j'aime. Après, c'est dur de rester avec trois, mais on va dire, sans non plus des trucs extravagants, genre, fais le tawaf autour de la Kaaba. Bon, mais ça, c'est une fois tous les. Comme vous savez, on reste terre à terre des choses qu'on peut faire n'importe quand. C'est l'enseignement de la religion, à travers ces durous, et à travers l'enseignement des enfants. Il n'y a rien de plus valorisant que de voir un enfant qui t'écoute et qui apprend et qui ressent avec quelque chose. Et que tu as fait un peu le travail d'Ambiya et qu'Allah nous accorde cette qualité. La deuxième chose, il n'y a pas d'ostentation, hein, on est en train d'échanger nos avis, c'est quand j'ai le temps, quand le temps le permet, tawfiq min Allah, de faire le dhikr après les salats, m'appuyer contre un mur et faire le dhikrullah. Ça c'est magnifique. Ce que tu ressens comme quiétude, comme apaisement, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Tu ne le trouveras ni sur Amazon, ni sur eBay, ni sur rien du tout. C'est tout simplement énorme. Et parenthèse dans la parenthèse, parmi les leçons qu'on a retenues du Hajj, au Hajj donc, j'ai l'occasion d'écouter de grands savants du monde musulman. Et un enseignement que j'ai retenu et qui m'a le plus touché, ça venait pas d'un grand savant. Ça, c'était pas un des enseignements de Cheikh Soudais, par exemple, qui nous a fait un bayan extraordinaire, du niveau de sa lecture, on va dire, d'accord? C'est une personne qu'on ne connaît pas, dans une petite mosquée, à Makkatul Mukarrama, donc c'est une grande mosquée, une belle mosquée. Une mosquée, c'est pas le masjid al-Haram, une mosquée, parce qu'on était loin. Et après chaque salah, il y a des dars, comme nous on fait, ben, c'est automatique, 10 minutes. Il avait cité un hadith. Et ce hadith m'a scotché. Et on essaie de le mettre en pratique autant qu'on peut. Et j'espère que en propageant cette bonne nouvelle, vous essaierez également de le mettre en pratique et qu'Allah nous donnera à nous tous tawfiq de le faire un peu plus souvent. Il dit que celui qui a... Mais je mémorise pas le hadith jusqu'à la fin. Si je me suis trompé de le ma'ana, on rectifiera. Que la personne qui, après avoir accompli sa salah, faraz, celui qui, après la salah, lit 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, et ensuite, il récite 100 fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tous ses péchés sont effacés. Même si ça atteint, et là, le doute que j'ai, c'est concernant la métaphore. Est-ce que c'était l'écume des mers ou une autre métaphore? Je vais vérifier. Même si on a une quantité de péchés indénombrables, inimaginables, Allah Rabbul Izza est capable de les pardonner tous. Parce qu'on a fait ces dhikr, ces adhkar après namaz faraz. Et là, on se dit que subhanallah, si on pouvait faire ce dhikr après chaque salat, 5 fois par jour. Et donc, quand il y a une possibilité, week-end ou dimanche, ou quand on n'est pas pris par le travail et par la vie qui est stressante, ou alors même parfois, on essaie en marchant s'il le faut. En marchant, on peut poilier à 100 fois le, ce que nous on appelle le quatrième calément, la ilaha illallah wa la sharika la, il faut 10 minutes. Parce que le truc, c'est pas de le lire rapidement, non. C'est de le lire avec, de façon posée. Donc, c'est pour ça l'idéal, c'est de le faire assis dans la masjid même, où il y a une certaine conscience. Donc, pour refermer cette parenthèse, ça fait partie des choses que j'aime le plus. Et troisième chose, je rejoins le docteur, ce sont les enfants. Regarder ses enfants manger, regarder ses enfants dormir, profiter de la vie, ça remplit le cœur de joie. Ce sont là des réactions humaines, où il y a une part de spiritualité, mais une part humaine qui est importante. Ce côté humain, et on va voir à travers la réponse du prophète sallam, il y a le côté nabawi, et il y a le côté humain également. Vous voulez qu'on vous dise maintenant la réponse des sahaba, ou alors on va dormir frustré? Autant le faire maintenant. Quand le prophète sallam a posé la question, en premier, il a adressé la question à Abu Bakr. Parce qu'Abu Bakr était toujours le plus proche de lui, et c'était l'homme le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ces personnes qui insultent Abu Bakr? Comment est-ce possible qu'il y ait des firqas, des personnes qui osent porter atteinte à l'honneur d'Abu Bakr, de Umar, de Uthman, a'oudhu billah. Le prophète m'a demandé à Abu Bakr, « Mada tuhibbu min ad-dunya ?» Faqala Abu Bakr radiallahu anhu, « Uhibbu min ad-dunya thalath » C'est Abu Bakr qui a délimité à trois points. Le prophète m'a dit, « Qu'est-ce que tu aimes le plus ?» Abu Bakr dit, « J'aime trois choses. » Et par rapport à sa réponse, les autres personnes vont répondre de la même façon. « Al-julousu bayna yadayk » Premièrement, être assis à côté de toi, au prophète d'Allah. Deuxièmement, wa nazaru ilayk, te regarder au prophète d'Allah. Troisièmement, wa infaqu mali alayk, dépenser mon argent pour toi, au Nabiullah. À travers la réponse d'Abu Bakr, on voit vraiment qu'est-ce que ça veut dire hubbun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète alayhi salat wa salam, je pense qu'on peut résumer à travers ces trois actions que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu aimait le plus de ce dunya. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas prier, ainsi de suite, on a bien compris. Mais les choses qui le motivaient le plus, c'est d'être assis auprès du prophète sallam, regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donner son argent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le din. Wa anta ya Umar. Et ensuite, le prophète m'a demandé à Umar ibn al-Khattab. Et les savants disent à travers ce genre de récits et beaucoup d'autres récits où le prophète, lorsqu'il posait une question ou lorsqu'il interpellait, c'était toujours dans cet ordre. Abu Bakr, ensuite Umar, ensuite Uthman, ensuite Ali. Les savants disent que ça, c'était déjà une preuve que le khilafa devait avoir lieu de cette façon. C'était eux les gens les plus importants dans le din. Umar ibn al-Khattab, si je vous dis Umar, donnez-moi un adjectif pour qualifier Umar. Qawi, robuste, fort, l'homme qui n'a peur de rien, l'homme qui dit la vérité, l'homme qui te regarde dans les yeux et qui te dit le haq, c'était bien Umar. Et on voit à travers sa réponse, sa personnalité. Amrun bil ma'ruf, walau kana sirra. Ordonner le bien, même si c'est en secret. Ça c'est ikhlas. C'est pas que tu fais une bonne action, tu ordonnes le bien devant tout le monde. Même si c'est une personne qui s'est un petit peu éloignée du droit chemin, et tu vas le voir dans un endroit où personne ne te voit, tu as donné un conseil à ton frère en islam, ça lui permet de revenir vers le droit chemin, ça j'aime le plus au monde. Deuxièmement, وَنَهْيُنَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَلَوْ كَانَ جَهْرًا. Et là on voit la force de caractère. Il n'a peur de personne. Interdire le mal, même s'il faut le dire devant tout le monde. Même si vous n'êtes pas content, vous encaissez. C'est la vérité. Ça, c'était la personnalité de Umar ibn al-Khattab. وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. Dire la vérité, même si elle est amère, même si ça me remet en cause, même si c'est quelque chose qui est difficile à accepter, dire la vérité et dire les choses comme elles le sont. Ça, ce sont mes principes à moi et les choses que j'aime le plus dans ma vie. Et là, on voit la personnalité de Umar ibn al-Khattab et le dîn avait besoin de toutes ces personnalités. Docteur, vous êtes psychologue, on a besoin de tous ces caractères pour former une société. On a besoin de l'homme doux, on a besoin de l'homme qui a un charisme, on a besoin de la personne qui a une vision beaucoup plus sociale, et ainsi de suite. Toutes ces personnes, toutes ces personnalités, tous ces profils, on les retrouvait à travers les sahabas, et chacun a porté sa pierre à l'édifice. « Wa anta ya Uthman » dit « Oh Uthman, et toi ?» Il a dit au prophète d'Allah, Ouhibbu thalatha, it'amu at'am. Si je vous dis Uthman, quel adjectif pour le qualifier? Al-Ghani. Uthman qui était riche et qui était généreux. Donnait. Il avait beaucoup, mais il donnait beaucoup. Quand Allah te donne beaucoup, donne beaucoup. Parce qu'attention, si Allah te remplit les poches, Allah te donne beaucoup. L'expression inadaptée. Si Allah te donne beaucoup de bienfaits et que tu les gardes, attention au compte là-haut. Ita'am ut'am, donner à manger aux gens. Et donner à manger, c'est ce qu'il y a de plus sincère. C'est offrir de la nourriture aux personnes qui sont dans la nécessité. Wa ifsha us-salam, faire salam au maximum de personnes. Ça, c'est une des qualités citées par le prophète alayhi salat wa salam pour accéder au paradis. Et non pas comme nous, on fait salam uniquement aux gens qu'on connaît. Aïe, trop noir, lui. Aïe, qui est passé, il sort. Aïe, ça, il n'est pas même Gaon. Soit pas de notre Gaon, ça. D'accord? Soit pas de notre village. Soit pas côté, peut-être qu'il soit, soit pas Gujarat, soit pas Kator. Donc, pas besoin de m'écouter. Pas ça. Ifsha ou salam. Faire salam au monde musulman. J'exagère, mais fais salam à chaque frère, à chaque personne qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans son cœur, parce qu'on le fait pour Allah. Et non pas par un lien de parenté ou par appartenance à une ethnie ou autre chose. Wa ifsha ou salam. Wa salatu billayli wa nasu niyam. Priez le qiyam al-layl, tahajjud. Priez la nuit alors que les gens dorment. C'est-à-dire quand les gens ils sont dans l'insouciance, une insouciance qui est mubah, hein, qui est autorisée, dormir. Et là, moi, je me distingue. Bien sûr, dans la nuit, sincérité. Personne ne me voit et je me prosterne devant mon Seigneur. Ça, c'était les choses qui animaient la vie des sahabes. Donc, par rapport à leurs réponses, on voit le décalage. Et c'était des réponses sincères. C'était vraiment leur conception de la vie. Parce qu'ils avaient compris que les joies de ce dunya, ce sont des joies comptées. Mahdouda. Et que le retour, c'est le retour auprès d'Allah. Et c'est ce qui compte. Wa anta ya Ali. Pour Ali, on va donner juste deux points et pas le troisième. Ikram al-daif. Quand je vous dis Ali, ça vous fait penser à un battant, celui qui lors de la bataille de Allahu Akbar, quelle bataille ça? Khaybar, non? La porte, c'était où ça, Khaybar? Il a porté une porte, il a déplacé une porte qui nécessitait 70 hommes. Force incroyable, hadith sahih, des récits authentiques, c'était des karamas, des miracles. Il ne le fait pas tous les jours. C'est à ce moment, Allah lui a donné une force qui lui a permis de... Il avait été attaqué. Non, c'est pas, tu sais, la guerre à l'époque, c'est pas juste, c'est pas un échange de fleurs, hein. C'est pas que en face c'est des fleurs et de l'eau fraîche et que le musulman il a l'épée. Non, le gars en face il a envie de détruire ta race entièrement, d'en finir avec toi. D'accord? Et Ali a perdu son bouclier pendant une lutte et il avait une porte, il a subitement pris cette porte, il l'a mis devant lui, il l'a utilisé comme bouclier. Les sahabas, lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit que. Si tu vois la grandeur de la porte, il faut, avec du bois épais comme ça, il fallait au moins 70 personnes pour porter ça. Bref, Ali, c'est la force. Donc, pour ça que, pour Ali, on va résumer à des points qu'on peut citer. Hazrat Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Je retrouve. Uhibbu fi dunya thalath. Non, ça c'est le plus impressionnant. Ça, c'est Abu Dhal Ghifari. Ikram al-daif. Honorer mes invités. Honorer mes invités. Wa saum bis-sayf, jeûner en plein été. Et là on voit la force. Jeûner quand c'est difficile, mais je le fais pour Allah. Et le troisième, inshallah, on a compris. Ensuite le prophète m'a demandé à Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, wa anta ya Abu Dharr, madha tuhibbu fi dunya? Et sa réponse, pourquoi est-ce qu'on cite ça ici? Parce que c'est en rapport avec les épreuves. Abu Dharr dit, j'aime trois choses. Al-ju', la faim. J'aime quand je n'ai rien à manger. Ou le marad. J'aime être malade. Ou le maut. J'aime la mort. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wa lima? Et pourquoi ou Abu Dharr? Une réponse qui est impressionnante. J'aime quand je n'ai rien à manger, j'aime quand je suis malade et j'aime mourir. Abu Dharr a dit, j'aime avoir faim, ne rien avoir à manger, afin que mon cœur s'attendrisse, afin qu'il y ait de la clémence de la compassion qui pénètre ce cœur, pour que mon cœur ne soit pas dur. Donc par mafhoum ou khalafa, par compréhension inversée, on déduit que l'homme qui a toujours le ventre plein, c'est un homme qui risque d'avoir le cœur un peu dur. Il dit, quand j'ai faim, je sais que mon cœur est ouvert pour l'ensemble de mes frères, parce que je vis ce qu'ils vivent. Wa uhibbul marad liyakhiffa dhanbi. J'aime être malade, parce que quand je suis malade, je sais qu'Allah est en train de pardonner mes péchés. Une autre vision de la vie, subhanallah. Wa uhibbul maut, on a compris, pour rencontrer mon Seigneur. J'aime la mort, c'est ce que j'attends, pour enfin pouvoir retourner auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà donc la vision, la conception de la vie de Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, moi, il y a trois choses que j'aime. Premièrement, at-tib, le parfum. Ça fait partie des choses que j'aime. Wan-nisa, ma famille, mes épouses. Donc ça, c'est important de le signaler, de le dire. Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah, comme la plupart d'entre vous ont dit, la fraîcheur de mes yeux de ce monde, c'est la prière, parce que c'est ma relation avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, l'ange Jibril alayhi salam est venu dans l'assemblée. Il a adressé ses salams à l'assemblée et il dit « Wa ana uhibbu min dunyakum thalath » et moi j'aime trois choses dans votre dunya. Fi dunyakum, min dunyakum, parce que c'est pas son monde à lui. Dans votre monde, j'aime trois choses. Mais ces trois choses-là sont en décalage. Ce sont des choses, c'est la vision d'un ange, pas la vision d'un être humain. Donc on ne peut pas avancer par rapport à cette vision. Tablir ur-risal, c'est sa mission, propager, apporter la révélation. Wa ada'ul amana, mon engagement, ce qu'Allah m'a demandé de faire, je l'accomplis. Et là, il y a un point qui montre que quand il revient des cieux, quand il quitte le monde des cieux, et quand il vient de ce dunya, ben, il sait exactement ce qui est aimé par Allah. Et ce qui est aimé par Allah, quand il vient de ce monde et qu'il entre en contact avec le dunya, il sait quels sont les endroits qui sont aimés par Allah. Et là, ça nous intéresse. Wa hubbul masakin. J'aime les pauvres. Jibril al-Hassam dit, parmi les choses que j'aime, c'est propager la mission, les deux points qu'on a dit, et les endroits où il y a des pauvres. Les pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, ben ces personnes-là, ces fréquentations, ce sont les gens que j'aime. Dans ce dunya, c'est ce qui est le plus cher pour moi. C'est la réalité de l'au-delà qui se fracasse avec les réalités de ce monde. Thumma, ensuite, Jibril est remonté aux cieux et il est revenu par ordre d'Allah Azza wa Jal et il dit qu'Allah yuqri'ukum salam. Allah vous adresse à tous ses salams. Ajib. Allah vous adresse salam, c'est là on avait le nectar des sahaba. Wa yaqul annahu innahu yuhibbu min dunyakum thalath. Allah aime trois choses dans votre monde à vous. Lisanan dhakira. Une langue qui fait beaucoup le dhikrullah. C'est-à-dire que si tu gardes ta langue trempée de le dhikrullah, tu es en train d'accomplir une des actions les plus aimées par Allah. Faisons l'intention d'être assidu dans nos adhkar après les prières. Ça, c'est important. Ne serait-ce les 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Et on n'insistera jamais assez sur le fait que, par exemple, après, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Il y a des fois où on s'attarde avec d'autres wazaif, d'autres actions après la salah, d'accord, qui ne sont pas forcément des actions qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand cette action, elle est terminée, on s'en va. Mais on a fait quelque chose d'autre, mais on est passé à côté de ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme enseignement. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Je n'irai pas plus loin, je pense que vous comprenez comment est-ce qu'on essaie d'aborder les choses, sans heurter non plus les sensibilités. La sunna, après une prière, ce sont les adhkar qu'on a cités tout à l'heure, c'est également les différents du'as qu'on a déjà cités dans différentes assemblées, ça prend un peu de temps, on ne va pas le faire, et les du'as qu'on a déjà dit avant, et rajouter à cela, « Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, pardon, et ayatul kursi. » Ce sont là les du'as que le prophète faisait après chaque salat. Mais sinon, on fait autre chose. C'est dommage. On a peut-être fait des choses bien, mais on a délaissé la sunna de Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète dit qu'il y a trois choses. Non, Allah Rabbul Izzah dit qu'il y a trois choses qu'il aime de notre dunya. C'est un homme croyant qui a la langue trempée dans son dhikr. Faisons l'intention donc d'être assidu à nos adhkar. Faisons l'intention également dans notre voiture. On a la chance à La Réunion d'avoir beaucoup de voitures, oui, d'avoir beaucoup d'embouteillages, d'accord. On essaie de faire le dhikr dans la voiture. On arrête d'écouter les panchats de certaines radios panchats, d'accord. Ceux qui ont perdu son cabri, qui ont perdu son chat, ensuite, tadir waqt, perdage de temps, comme il dit, d'accord. On essaie de faire le dhikr. Et si pour vous aider, vous voulez garder un petit tasbih à côté de vous, fa'fa'al. Il y en a qui disent que c'est... Bon, là c'est un peu poussé. Hein. Là, si on monte un peu haut, mais c'est pas notre niveau, là. Là, c'est pas notre niveau. Certains savants sont d'avis que le sabbah, hein, le tasbih, c'est une innovation. Il faut pas... D'autres disent qu'il n'y a pas de mal. À mon humble avis, si tu gardes un tasbih auprès de toi dans la voiture sur ta boîte de vitesse, si tu as une boîte auto, c'est plus simple. Tu n'as pas besoin de changer de vitesse. Donc, ça reste là. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais ça te rappelle... C'est un rappel pour faire le dhikr. C'est un rappel pour faire le dhikr. D'accord. Ou alors si tu mets sur le rétroviseur et tout, bon, pour ça, pas physique, comme ça, ou ça peut être 2 points, 4 points. Mais la voiture, c'est un moment, selon moi, c'est un moment vraiment opportun pour faire le dhikrullah. Et de cette façon, quand tu fais le dhikrullah, tu vas pas admirer le paysage féminin. On va pas regarder tout ce qui passe, on va pas regarder ce qu'on doit, on ne doit pas regarder parce qu'on est, pris par le dhikrullah. Sincèrement, fais le dhikr. Qu'on soit dans le bus ou dans la voiture, c'est un temps qu'on passe. On passe au moins 2 heures par jour dans une voiture, en général, d'accord. Ben, si on meuble ce temps avec le dhikrullah, et ne cherchez pas, ben, quel zikalm ça fait encore. Maintenant, on fait un tas aujourd'hui. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. Ila ghayri dhalik. D'accord. Donc, lisanan dhakira wa qalban khashi'a, un cœur qu'on peut dire khashi'a, sincère et dévoué pour Allah. Un cœur rempli, il y a notre terme, le terme ne me revient pas parce qu'on a dépassé l'heure là, je pense. Al-khushu, dévoué, un cœur dévoué, un cœur rempli de sincérité et de dévotion pour lui, pour Allah Azza wa Jal. Wa jasadan 'ala al-bala'i sabira, un homme qui est patient face à ses épreuves. Et là, on reprend encore le contenu de ce qu'on a dit dans l'explication de Al-Latif, c'est-à-dire qu'Allah envoie une épreuve, Allah aime voir son serviteur, faire preuve de sabr, de patience et d'accepter l'épreuve en se remettant à lui. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de développer les qualités d'Abu Bakr, de Umar, de Uthman, de Ali, de Abu Dhar al-Ghifari, de l'ensemble des sahaba, et que ces qualités spirituelles prennent vraiment la place qu'ils doivent prendre dans notre vie, et que tout ce qui est hubb dunya, tout ce qui est sentiment négatif sorte de notre cœur, inshallah, ma tawfiq illa billah. La prochaine fois, le prochain lundi, inshallah, on va continuer un petit peu les différents points sur la manifestation de la bienveillance d'Allah envers nous. Et ensuite, l'autre nom d'Allah qu'on va étudier, ça c'est tout simplement magnifique. On passe à un autre registre, on pourrait dire, que Allah est azim, azamatullah. Allah le très grand, le sublime, la grandeur d'Allah. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah.